parlé de l'onction dimanche passé, très intéressant. On peut l'aborder de différentes manières. L'onction, on pourrait faire 50 messages différents, parce que tellement c'est riche, c'est puissant, il y a tellement de choses à dire sur l'onction, extraordinaire. Et donc, on va rappeler ici quelques éléments que nous avons vus la semaine passée, qui étaient une prédication sous forme d'enseignement quand même, il faut dire la vérité. Donc, nous avons vu la semaine dernière que Dieu veut nous parfumer de son onction. Nous parfumer de son onction. Tu oins de parfum ma tête et ma coupe est débordante. Nous l'avons vu dans le psaume 23. Nous avons vu que l'huile d'onction est une composition, selon l'art du parfumeur, qui nous révèle le caractère de Christ. Donc, l'onction que Moïse... Oui, qui avait été demandé la fabrication de cette onction, de cette huile d'onction, avait plusieurs composantes. On ne va pas revenir là-dessus, mais cette composition nous révèle le caractère de Christ. Par exemple, le cinnamome, le roseau aromatique, etc. Nous avons vu à quoi ça faisait référence. Dieu veut nous façonner dans notre caractère par l'onction. Dieu veut nous façonner, transformer à la ressemblance du Christ dans nos sentiments, dans notre caractère. Comme David, qui a été choisi, Dieu aussi nous a choisis. Nous avons été choisis. Vous comme moi avez été choisis par le Seigneur. Et désire nous oindre. Hein, vous savez que Samuel avait répandu l'huile d'onction avec la corne. Il avait répandu l'huile sur la tête de David. Et Dieu veut aussi faire cela sur nos vies. Il veut nous oindre, comme les 120 dans la chambre haute. Hein, je passe dans le Nouveau Testament. Qu'est-ce qui se passe en acte 2, au chapitre 2? La promesse de Jésus, c'était que le Saint-Esprit allait venir. Je ne vais pas vous laisser orphelin. Le Saint-Esprit va venir sur l'Église. Et l'Église, c'est les disciples qui croient, qui sont là, réunis dans la chambre haute, alors que Jésus est remonté au ciel. Et 10 jours plus tard, ils reçoivent la puissance du Saint-Esprit. Des flammes de feu sont au-dessus de la tête des 120. Ils parlent dans d'autres langues, ils sont remplis de l'Esprit. Ils ont l'onction, ce n'est pas de l'huile là, c'est du feu. Peu importe, il y a différentes images à l'Esprit-Saint, à l'onction. Bien sûr, c'est ce que nous allons développer. Mais voilà, donc il y a plusieurs illustrations. Le vent, c'est aussi une façon de voir l'esprit. Il est comme un vent impétueux. Hein, acte chapitre 2, hein, la flamme au-dessus des disciples, que ça ne s'est jamais plus reproduit dans l'histoire. C'était unique. Et en tout cas, l'onction, elle est pour nous. Et pour tous ceux qui croient. Nous avons vu que l'onction de sainteté nous met à part pour le service. L'onction, c'est une onction de sainteté. C'est pas n'importe quoi. On fait pas n'importe quoi. On ne mélange pas le monde et Dieu en même temps. Elle nous met à part pour servir Dieu. Nous avons vu que l'huile est donnée pour une priorité. Pour une exclusivité. La priorité, c'est le royaume de Dieu. Et sa justice. Et l'exclusivité, nous sommes au service de Dieu et à son service unique. Nous n'allons pas servir Mammon et Dieu. Il faut faire un choix. Si je me consacre à Dieu, je suis consacré à Dieu. Et je peux avoir une vie normale, hein, si je ne suis pas obligé d'être un prêtre, un célibataire, nécessairement. Il y a des célibataires, il y a des gens mariés. Peu importe, Dieu nous utilise avec qui nous sommes. Et ça, c'est important. Nous avons vu que l'huile est donnée aussi et qu'elle ne doit pas manquer et que nous devons entretenir journalièrement notre communion avec Dieu. Nous devons entretenir comme l'huile qui était... Enfin, on avait vu les trois types d'huile. Il y avait l'huile d'onction sur Aaron qui était faite pour Aaron et les sacrificateurs, le souverain sacrificateur. Hein, les sacrificateurs devaient aussi avoir cette huile d'onction, comme les rois et les prophètes, mais aussi le parfum odoriférant qui était brûlé sur l'autel des parfums, qui est l'adoration des saints, la prière des saints. Il y avait aussi l'huile qui était utilisée dans le chandelier, dans le tabernacle. Et cette huile-là devait être entretenue, devait y avoir de l'huile renouvelée. Tous les jours, on devait renouveler l'huile. Et dans nos vies, ça nous fait penser à quelque chose d'extraordinaire. C'est, vous vous rappelez tout de suite les 10 vierges sages et les 10 vierges folles. Hein, les folles, c'est celles qui n'avaient plus d'huile. Donc, c'est important d'avoir de l'huile en suffisance. Tous les jours, je prends un temps avec Dieu. Dans la parole, dans la prière, et prier sans cesse, c'est pas seulement prier 10 minutes, mais c'est la communion avec Dieu, c'est l'intention de Dieu, c'est que nous soyons en communion avec lui continuellement. C'est ça l'huile qui ne manque pas. Si je suis en communion avec Dieu, cette huile, elle ne manque pas. Si j'arrête d'être en communion avec Dieu, je suis plus en communion avec mes problèmes, mon passé et toutes sortes de choses, où je suis en communion avec plus mes problèmes qu'autre chose, avec la vie, et j'oublie Dieu, cette huile finira par manquer. Et l'huile, c'est important. On l'utilisait pour tout dans l'Ancien Testament. C'était la nourriture. Hein, avec la farine, l'huile, on faisait du pain. Pour se battre, on utilisait l'huile. Les soldats utilisaient l'huile pour leurs armes, pour leur corps. L'huile était utilisée à tous les niveaux pour éclairer. Jésus dit que nous sommes la lumière du monde. Mais l'huile était utilisée dans tellement de situations et nous ne devons pas en manquer. Alors, nous avons vu que c'est une onction de joie. Une onction de communion. Ah, quand nous sommes en communion les uns avec les autres, c'est comme l'huile qui descend sur la barbe d'Aaron et sur ses vêtements. Il y a là une bénédiction. C'est le lieu de la bénédiction. La communion avec Dieu, la communion avec les frères et les sœurs. Ce matin, nous avons adoré Dieu. Nous sommes en contact avec Dieu. Nous adorons le Dieu vivant. Nous sommes ensemble les uns avec les autres. C'est pour ça que nous devons nous pardonner. Dieu nous a pardonné et nous vivons quelque chose d'intense, en contact, en communion, les uns avec les autres et avec Dieu. C'est extraordinaire. C'est là la bénédiction. Une heure dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs, parce que l'onction est là. L'onction est dans la communion avec les uns et les autres, avec Dieu, Dieu au milieu. Par l'onction, la bonne odeur de Christ va nous accompagner et nous faire reconnaître. Cette bonne odeur est sur nous. Cette onction, c'était une onction odoriférante, c'était aussi une onction parfumée, c'est un parfum. Et c'est ce parfum de Christ, nous l'emmenons partout où nous sommes. Et nous avons un impact par le parfum de Christ autour de nous, là où nous sommes. Et les gens vont nous reconnaître à l'amour que nous avons les uns pour les autres, au parfum que nous dégageons du Christ. Parce que les premiers chrétiens, on les appelait chrétiens justement, les premiers disciples, on les appelait chrétiens parce que c'était des petits Christ. Ils portaient en eux l'image du Christ, ils avaient le caractère du Christ, ils dégageaient l'odeur du Christ. Cette onction qui était sur Jésus était aussi sur eux. Ce matin, Dieu veut que nous activions l'onction que Dieu a mis sur nous et en nous. Dieu veut que nous activions, parce que c'est ça, l'onction, elle peut ne pas être activée. Alors nous allons voir, nous allons voir un petit peu, mais comment ça se fait ça? Premièrement, Dieu fait la promesse, il nous a fait la promesse de donner le Saint-Esprit à tous ceux qui croient. Acte chapitre 1, verset 8, « Mais vous recevrez une puissance. » Une puissance. Ce n'est pas un mot. Ce n'est pas des mots qui font bien. Ah, une puissance. Hein. Non, là, une puissance. Dieu vient avec puissance. Son royaume vient avec puissance. Ce n'est pas intellectuel seulement. Il y a une puissance de Dieu dans l'évangile est une puissance pour le salut de quiconque croit. Si nous croyons que Dieu est vivant, que Dieu a traversé la mort et qu'il est ressuscité, il y a donc là une vie impérissable. La vie du ressuscité est une vie impérissable. Et quand nous croyons en lui, nous recevons la vie impérissable. C'est l'auteur des Hébreux qui nous parle de ça. Mais vous recevrez une puissance du Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Alors, le Saint-Esprit veut survenir sur nous. Extraordinaire. Cette promesse est pour vous, pour nous et pour tous ceux qui croiront en aussi grand nombre soit-ils. Pas seulement pour les pasteurs. Donc, c'est pas seulement pour les anciens, pas seulement pour les évêques, pas seulement pour les pasteurs, les directeurs de louanges. C'est pour tous ceux qui croient. Tous. Nous devons vivre surnaturellement par l'onction. Et ça, c'est important. Nous devons vivre surnaturellement par l'onction. Et le problème, voyez-vous, c'est que l'Église, eh bien, elle vit selon le naturel, comme les gens du monde. La plupart du temps, l'Église vit de manière naturelle. Enfin, le naturel, on pourrait parler du naturel. Il y a des choses normales. Il faut être naturel. Il ne faut pas se prendre pour qui on n'est pas. On est qui on est par la grâce du Christ. Par la grâce de Dieu, je suis qui je suis. C'est pas ça que je veux dire. Je veux dire que le naturel, c'est quoi? Le naturel, c'est par exemple de dire le christianisme, c'est une religion. Je crois que j'ai la bonne doctrine, j'ai la bonne théologie. Mais le christianisme, ce n'est pas avoir la bonne théologie, c'est très important. Je ne dis pas, je ne nie pas que ce soit important. Mais si j'ai seulement les bons dogmes, la bonne théologie, la bonne façon de voir les choses, voilà, je sais comment il faut croire, comment être, etc. C'est pas seulement de l'éducation, une éducation chrétienne. C'est pas seulement des principes chrétiens qui conduisent notre vie. Mais c'est très important d'en avoir. Mais qu'est-ce que c'est alors? Mais le christianisme, c'est la puissance d'une vie impérissable, par la relation avec le Christ qui est mort et ressuscité, qui vit en nous et nous fait vivre de sa vie. Quand j'ai reçu Christ dans ma vie, c'est une vie de relation. Ce n'est pas une vie de religion. Je ne suis pas dans la religion ou dans la religiosité. Je suis dans la relation avec un Dieu vivant. Le Dieu qui est vivant vit en moi, c'est différent. C'est pas simplement je crois intellectuellement et poliment et sagement que Dieu existe. Ben, ça c'est bien. Mais si ma foi est mise en pratique, si j'ai un contact réel avec Dieu, l'Esprit vient habiter en moi. Et je suis une habitation de Dieu en esprit, avec mes frères et mes sœurs bien sûr. Ensemble, nous sommes une habitation de Dieu en esprit, mais je suis aussi le temple du Saint-Esprit. Et je ne m'appartiens plus, j'appartiens à Dieu. Et là, il y a quelque chose de spécial. Le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Le royaume de Dieu ne consiste pas, ce n'est pas seulement des paroles, des belles paroles, non. C'est le royaume de Dieu, il vient avec puissance. Ce n'est pas une question seulement de parole. Ma parole et ma prédication, disait Paul, ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse humaine, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Il y avait là, derrière les paroles de Paul, une démonstration d'esprit et de puissance. Il n'y avait pas une sagesse de langage. Ce n'était pas ça qui était recherché. Ce n'est pas seulement des beaux discours. c'est quelque chose de puissant qui transforme. Il y a donc là un évangile puissant qui transforme nos vies. Une parole, des promesses de Dieu qui ont une efficacité. Je peux tout par l'onction qui m'anime. Hein? Je peux tout par celui qui me fortifie. Notre foi ne doit pas reposer sur la mentalité des gens ou sur la philosophie ambiante de notre monde. Colossiens chapitre 2, verset 8. Faites attention que personne ne vous prenne au piège par la philosophie, par des tromperies sans fondement qui s'appuient sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires qui régissent le monde et non sur Christ. Faisons attention de ne pas verser dans des choses légères, des principes du monde. Tout n'est pas mauvais dans la philosophie, hein. C'est pas ça que je suis en train de dire. Hein. J'étudie la philosophie, je trouve qu'il y a des choses intéressantes, mais ne remplaçons pas les principes philosophiques que les gens ont étudié dans l'histoire. C'est intéressant peut-être de le savoir, mais ne nous appuyons pas sur cela dans notre vie. Appuyons-nous surtout sur la parole de Dieu. Hein? Je crois que c'est important. Plutôt que sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires qui régissent le monde. Appuyons-nous sur la puissance de Dieu. Corinthiens chapitre 2, verset 5. Afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Notre foi doit être fondée sur la puissance de Dieu. Pas seulement sur la sagesse des hommes. Et pas sur la sagesse des hommes, justement. Alors, un élément essentiel, donc, ce qu'on dit, c'est que nous ne devons pas vivre d'une manière naturelle, mais surnaturelle, par l'onction. Laisser l'onction faire son travail en nous. Nous avons reçu une onction. Parce que des fois, il y a des gens qui ne savent même plus, ou ils savent intellectuellement qu'ils sont au temple du Saint-Esprit, mais ils ne savent même plus que l'Esprit Saint est une personne. L'Esprit Saint est une personne. Quand on parle d'onction, hein? Mais non, c'est le Saint-Esprit. Une personne de la Trinité, une personne divine. Dieu, à l'intérieur de nous, c'est extraordinaire, c'est un mystère. Christ est en nous, l'Esprit Saint est en nous, le Père est en nous, l'Esprit qui est l'onction de Dieu est en nous. C'est extraordinaire. Dieu vient habiter en nous. Dieu a élu domicile en nous. Lui qui était SDF, il est venu établir son domicile en nous. Mais non, son domicile est au ciel. Ouais. Il est assis à la droite du Père. Et il nous a déjà établi notre domicile au ciel. Un jour, nous sommes déjà domiciliés là-bas au ciel. Hein. Nous faisons partie d'une cité céleste. Notre domicile est au ciel. C'est pour ça que nous pouvons nous considérer comme étrangers, voyageurs sur la terre. Mais nous avons l'onction qui reposait sur Jésus, repose sur nous aussi. Si nous avons l'Esprit vraiment, si nous n'avons pas encore l'Esprit, nous pouvons la recevoir. Ne tracassez pas, parce qu'elle est pour tous. Ce n'est pas un club fermé. L'Église n'est pas un club fermé. Les disciples du Christ, ce n'est pas un club fermé. Tous sont invités à entrer dans la famille de Dieu. Bienvenue dans la famille de Dieu. Dieu nous ouvre ses bras, il nous aime. Et il y a une onction pour nous, pour transformer ce qui n'est pas encore en ce qui doit devenir. Dieu est capable de faire des choses extraordinaires dans nos vies. Extraordinaires. Nous devons être assoiffés pour recevoir l'onction. Est-ce que nous sommes assoiffés aujourd'hui? Est-ce que nous avons soif de quelque chose de nouveau dans nos vies? Ah, si nous n'avons pas soif, évidemment, là, on ne va pas donner à boire à quelqu'un qui n'a pas soif. Dieu ne va même pas nous donner à boire. Si nous n'avons pas soif. Paul dit, soyez remplis du Saint-Esprit. Et la Samaritaine disait à Jésus, donne-moi cette eau. Donne-moi cette eau. Avec laquelle on n'aura plus jamais soif. Je veux cette eau avec laquelle j'aurai plus jamais soif. Et l'onction que Dieu veut nous donner, c'est une onction avec laquelle nous n'aurons plus jamais soif. Nous allons être désaltérés jusque dans la vie éternelle. En été, ça vaut la peine, ça aussi. Hein. Être désaltérés jusque dans la vie éternelle. C'est toute l'année, c'est tous les jours. Donne-moi cette eau. Alors, si nous sommes assoiffés pour recevoir l'onction, et que nous la recevons, et comment est-ce que nous recevons l'onction? Alors, on l'a déjà dit en quelques mots, crois au Seigneur et tu seras sauvé. Si tu confesses de ta bouche, si tu crois dans ton cœur que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts, tu seras sauvé. Croire dans ton cœur et confesser de ta bouche que le Seigneur, que Jésus est Seigneur et Sauveur, qu'il est mort et qu'il est ressuscité, il est mort avec ton péché, et il est ressuscité pour que tu sois sauvé, pour que tu lui appartiennes pour l'éternité. Alors, qu'est-ce qu'il faut de plus? Eh bien, nous devons activer l'onction. Hein, pour activer quelque chose, il y a souvent un bouton. Là, tu pousses sur un bouton, là tu marches à rien, tu l'actives. L'onction nous permet de percer, de résister. L'onction, elle nous permet de résister à tout le mal. Vous savez, Jésus a eu beaucoup d'ennemis. Le diable s'est placé contre lui. Hein. Rappelez-vous le désert. Rappelez-vous Gethsémané, mais il y a eu des pièges à tout moment. Des gens qui lui tendaient des peaux de banane pour le faire glisser. Mais il n'a pas glissé parce que il voyait les choses. Il était rempli de l'esprit. Il connaissait la pensée des gens à qui il parlait. Il savait de quoi ils étaient animés. Il connaissait les pensées. À plusieurs reprises, il connaît les pensées des gens à qui il parle. Ou qui ne parlent pas. Il pense. Mais Jésus voit ce qu'il pense. Et ce n'est pas des présupposés. Ce n'est pas... Hein, l'amour ne soupçonne pas le mal. Il voit clair. Il voit clair. Et il a été torpillé de différentes façons. Il a pu résister au mal. Il a pu être plus fort que le mal. Comment est-ce qu'il peut être plus fort que le mal? Alors, parce qu'il a un disque au-dessus de sa tête? Parce qu'il est saint et que nous ne sommes pas. Nous sommes saints parce que nous faisons partie de la famille de Dieu. Nous sommes sanctifiés, nous sommes lavés. Et Christ n'était pas... Je veux dire, il était avec un corps comme nous. Il a pu souffrir, il a pu être tenté, il a pu avoir tellement difficile. Il est Dieu aussi, bien sûr. Ce que nous ne sommes pas, mais... Et nous avons maintenant la nature divine, c'est extraordinaire. Dieu nous donne des capacités extraordinaires. Nous recevons en lui la nature divine. Nous ne sommes pas Dieu, mais même si un des psaumes dit que nous sommes des dieux, hein, c'est-à-dire que nous avons la nature de Dieu en nous. Extraordinaire. Mais l'onction nous permet de percer, de résister face à l'adversaire. Et nous avons des difficultés, nous avons des problèmes tous les jours. Et alors, nous devons prier parce qu'il y a tellement de difficultés. Difficultés familiales, difficultés de couple. Déjà, nous-mêmes, nous pouvons ne pas avoir envie d'aller travailler. Hein, ça peut arriver. C'est pas facile. Des fois, on passe des mauvaises nuits, puis j'ai une journée difficile le lendemain. Et on a des tas de difficultés. Nous sommes exposés à toutes sortes de problèmes. Comment est-ce que je peux faire? Comment est-ce que je peux aimer mes frères, les gens qui me font des problèmes, les gens qui m'ont blessé? Comment est-ce que je peux leur pardonner? Est-ce que c'est pas trop demandé? Aimez-vous les uns les autres, c'est facile. Mais la réalité, c'est difficile. Pourquoi? Parce que sans onction, là c'est pas possible. Vous savez, sans onction, chacun est dans sa maison. Et je récupère de la semaine, ça, c'était très dur, je ne veux plus voir personne. Ça, c'est plus facile, c'est les gens du monde aussi ça. On rentre vite dans sa maison et je ne veux plus parler à qui que ce soit. Je me repose devant un bon film. Pas tout le monde sait faire. Mais être en contact avec les autres, aimer malgré les blessures, comment je peux faire? Ben, il faut l'onction, il n'y a rien à faire. J'ai besoin d'onction. J'ai besoin d'onction dans ma vie de couple, avec mes enfants, la manière dont je vais parler. J'ai besoin de l'onction dans toutes les relations que j'ai. Dans ma perspective des choses, ce que je vais faire dans ma vie, dans les projets que j'ai besoin d'onction. J'ai besoin d'être dirigé par Dieu. Et l'onction me dirige et me conduit dans toute la vérité. J'ai besoin de cette onction. Si je n'ai pas besoin de cela, alors là, je suis à côté de la plaque. Enfin, je peux essayer, mais je ne vais pas aller bien loin parce que je vais réaliser que tout devient compliqué et difficile. La vie chrétienne sans l'onction est très compliquée. Mais vous pouvez toujours essayer, il y en a qui le font. Alors on devient hypocrite, on a de la rancune, on ne sait pas quoi faire avec ça. On a des tas de problèmes incroyables et des esprits contraires qui peuvent même venir. Et donc, comment est-ce que je peux faire par rapport à un champ de combat? Ma vie est un champ de combat. Et Dieu m'appelle au bonheur, on l'a vu, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Dieu nous promet le bonheur, Dieu nous promet la grâce, et pourtant j'ai des combats, j'ai des difficultés. Comment je peux faire, moi? Faut que j'active l'onction. Faut que j'active l'onction. Il y a un paradoxe, l'intensité. Aujourd'hui, il y a un paradoxe terrible, c'est que le mal devient de plus en plus grand. Il y a même des sites où on vous invite à vous opposer au message de la croix, à dire du mal, à blasphémer contre le Saint-Esprit. Le mal devient de plus en plus grand, et paradoxalement, Dieu aussi donne une puissance de plus en plus grande à ses serviteurs, à ses enfants. C'est plus le moment de vivre dans l'Église comme si vous n'avez pas reçu l'onction, avec des habitudes, avec des principes seulement. Il faut dépasser le cadre des habitudes religieuses, des dogmes, etc., pour arriver aussi à une relation avec Dieu et une puissance de vie qui vous fait vivre selon Dieu et qui vous donne la victoire sur la tentation, sur le mal qui vient s'opposer à votre foi. Alors nous allons voir David pour l'activation de l'onction. On va voir l'exemple de David. Et voilà, nous allons voir dans Samuel, si vous voulez bien. Nous allons prendre Samuel 1 Samuel. Voilà. Dieu dit à Samuel, remplis ta corne d'huile et pars. Verset 1er. Remplis ta corne d'huile et pars. Je t'envoie chez Isaïe, le Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi, et ça va être David. David va être choisi. Alors, je vais vous lire le verset 13. Samuel prit la corne d'huile et il lui donna l'onction au milieu de ses frères. Et l'Esprit du Seigneur fondit sur David à partir de ce jour. L'Esprit du Seigneur fondit. Oh, j'aime beaucoup ce terme, fondre. L'Esprit du Seigneur fondit sur David à partir de ce jour. Et pourtant, il ne va rien se passer d'extraordinaire. Rien d'extraordinaire parce que Goliath, vous savez que les Philistins et Israël étaient en guerre. Et il y avait au milieu des deux camps une vallée. Et Goliath venait pour insulter le Dieu d'Israël et lancer un défi à Israël en disant « Envoyez-moi quelqu'un se battre contre moi », il faisait plus de 3 mètres, « et celui qui gagnera, eh bien, voilà, les autres sont perdants, voilà, ils devront se rendre, voilà, envoyez-moi quelqu'un. » Et il insultait le Dieu d'Israël. Il se moquait. Et c'est intéressant de voir l'attitude de David. Vous voyez, le problème, c'est que quand nous n'activons pas le Saint-Esprit en nous, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il n'y a rien qui se passe. Apparemment, l'adversité est plus forte que tout ce que nous pouvons avoir comme force. Apparemment, c'est impossible de s'en sortir. Un géant de 3 mètres 20, en face de vous, qu'est-ce que vous voulez faire? Les Israélites tremblaient chaque fois qu'ils entendaient Goliath pavoiser devant l'armée, devant les armées. Ils tremblaient de peur, ils avaient peur, c'est terrible. Il y avait une communication de peur, c'est incroyable, la peur se communique. Et toute l'armée d'Israël avait peur, même Saül avait peur. Il était le chef, mais il n'aurait pas osé y aller. Alors, il avait peur. Il n'y en avait pas un qui aurait osé relever le défi. Mais il va se passer quelque chose. Verset 32. David dit à Saül, au roi Saül, que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Moi, ton serviteur, j'irai me battre contre lui. Ah, il proclame quelque chose. Hein? Il avait déjà dit, quel est ce Philistin? C'est un circoncis pour oser blasphémer contre le nom de Dieu. Quel est cet incirconcis? Donc il disait des choses pour honorer le nom du Seigneur. Et ici, il dit, voilà, que personne ne se décourage. Ton serviteur, j'irai me battre. J'irai me battre. Je relève le défi. J'aurai la victoire. Dieu va me donner la victoire parce qu'il a blasphémé le nom du Seigneur. Et Dieu va me donner la victoire, pas parce que j'ai quelque chose de spécial, mais parce que Dieu est spécial et il est en moi. Et il est sur moi. Pas parce que j'ai de la force ou que je suis intelligent ou plus beau que les autres, mais l'onction est là. Verset 34, David dit à Saül, ton serviteur gardait les brebis de son père. Quand un lion ou un ours venait pour en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il m'attaquait, je l'attrapais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a frappé le lion et l'ours, et ce sera aussi le sort du Philistin, de cet incirconcis, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. David ajouta, l'Éternel m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, et il me délivrera aussi de ce Philistin. Saül dit à David, vas-y donc, et que l'Éternel soit avec toi. Il proclame. David, il ne fait pas seulement que de recevoir l'onction. S'il n'avait rien dit, l'onction n'aurait rien fait. L'onction n'aurait rien changé. Parce que l'onction doit être activée. Et David active l'onction en proclamant la parole de Dieu, les promesses de Dieu, et en proclamant sa foi est fortifiée, et en fortifiant sa foi, parce que l'onction et la foi ont une relation évidemment, et en proclamant les paroles de foi, il active l'onction. Vous voyez, il aurait pu tomber dans la peur. Ouais, je vais quand même pas y aller, hein. Il faut pas être fou, je suis jeune encore, je tiens pas à perdre la vie, j'ai encore beaucoup d'années à vivre sur la terre, je vais essayer de préserver mon capital santé, je vais pas y aller contre Goliath parce que je suis pas sûr de gagner, c'est quand même un gars de 3m20 et moi je fais 1m70 ou 1m60, je sais pas moi, imaginons, c'est 1m75, mais imaginons un tout petit peu la différence, mais l'onction lui fait dire, il sait de la part de Dieu qu'il va être l'instrument choisi par Dieu pour vaincre un ennemi qui est évidemment redoutable, presque imbattable, apparemment imbattable, en tout cas il se croit imbattable, Goliath, oui. En tout cas Dieu sait qu'il va être vaincu, et David par l'esprit il sait aussi qu'il doit aller se battre. Bien sûr, il a quelques expériences. Dieu lui a permis d'avoir quelques expériences avec des ours, hein, et des lions. Donc, il a quand même rencontré, il a pu déjà faire ses armes avec des animaux sauvages, hein, avec sa fronde. sans doute il a acheté une pierre dans l'œil du lion, imaginons que c'est ça, hein. Parce que s'attaquer à un lion, je pense que c'est foutu d'avance, mais si vous prenez votre front et que vous visez à la perfection dans l'œil du lion, tout est possible à ce moment-là, tout est possible. Tout est possible à celui qui croit. Et David est un de ceux-là. Il croit que tout est possible à celui qui croit. D'ailleurs, il va renouveler l'expérience que va prendre sa fronde. Il va l'envoyer dans l'œil. Dans l'œil, entre les deux yeux, pardon. Entre les deux yeux du géant, hein, qui va s'effondrer par terre. Et voilà ce qu'il va dire aux Philistins. Parce que David va aussi proclamer des choses face aux Philistins. Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel, le maître de l'univers, au nom du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel va te livrer entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je vais donner les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux bêtes sauvages. Toute la terre saura alors qu'Israël a un Dieu et toute cette assemblée saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve. En effet, la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. Il rend toute la gloire à Dieu. Ce n'est pas par ses forces, ce n'est pas par la force, ce n'est pas par la puissance, mais par mon esprit. C'est Zacharie qui le dit. Hein. Ce n'est pas par la force et la puissance, mais l'onction est sur David. Et il sait ce que Dieu va faire. Je te couperai la tête. C'est ce qu'il a fait après. Il l'a abattu, il lui a coupé la tête, exactement comme il l'avait dit. On aurait pu dire, comme son frère, « Quel prétentieux, qu'est-ce que tu viens faire ici, toi, David hein? Tu t'as laissé, et les brebis de papa, elles sont où, là? Tu fais quoi? Qu'est-ce que tu es en train de faire hein? Tu es venu, espèce de petit curieux. » Mais David savait qu'il était dans les mains de Dieu, que Dieu allait l'utiliser, que Dieu était en train de faire quelque chose, il était en train d'activer son onction. Et l'assurance que David était vu comme de l'orgueil. Quel orgueilleux quand même, hein. C'est pas un orgueilleux, c'est quelqu'un qui a de l'assurance. C'est pas la même chose, ça y ressemble, mais l'assurance n'est pas de l'orgueil. Pas nécessairement. Dans la vie de David, l'assurance qu'il a n'est pas de l'orgueil. N'est pas de l'orgueil. Il rend la gloire à Dieu. C'est Dieu qui doit avoir la gloire. C'est pas par la force et la puissance de David. C'est par le nom puissant du Dieu qu'il sert. C'est Dieu qui donne la victoire. La victoire appartient à l'Éternel. Il n'a pas dit la victoire m'appartient. Oui, j'aurai la victoire. Mais la victoire, elle appartient à qui? À l'Éternel. Quand nous proclamons les promesses de Dieu, la foi est augmentée, amplifiée, et l'onction est activée. Donc quand je proclame, la foi est augmentée, amplifiée, et l'onction est activée. Et Dieu a quelque chose de frais pour chacun de nous. Il a quelque chose de frais. Et c'est dans le psaume 92, verset 11, « Mais tu me donnes la force du buffle. Tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé avec une huile fraîche. » Je suis arrosé avec une huile fraîche. Ça me fait penser aussi au combat. Dans le combat, on utilisait de l'huile. Je suis arrosé d'une huile fraîche par rapport à mes ennemis. Hein? Ma coupe déborde. Tu oins d'huile ma tête. Et ma coupe déborde. L'ennemi était là, dans le psaume 23. On a vu ça. Extraordinaire. Alors, l'onction, elle est variée pour toutes les tâches de la vie. Pour tout ce que nous avons à faire, pas seulement pour prêcher, pour enseigner, pour faire des choses formidables, non. Pour faire les choses banales de la vie aussi. L'onction, elle n'est pas seulement là pour témoigner, elle est là pour témoigner. Pour annoncer l'évangile aux gens qui ne le connaissent pas. Parce que des fois, on a peur. Non? Il n'y a pas de timidité parmi nous, il n'y a pas... Quelquefois, on est un peu timide, hein, un peu mal à l'aise, comment est-ce que je vais parler? Je dois témoigner. Je vous serai mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Est-ce que vous le faites? Est-ce que je le fais? Est-ce que tous les jours, je prends soin de témoigner aux autres? Alors, en général, on se dit, oh, je ne veux pas embêter les gens. Je ne veux pas encore les embêter avec ma religion. Je ne veux pas les... Oh là, ils vont peut-être... Après, j'aurai une mauvaise relation. Ils ne voudront plus me dire bonjour. comment est-ce que je vais faire? Pas facile. Donc, l'Esprit Saint va nous aider. Si je ne suis pas rempli du Saint-Esprit, je ne vais pas y aller. Je ne vais pas aller au front annoncer l'Évangile. Je ne vais pas aller témoigner aux voisins si je ne suis pas rempli du Saint-Esprit. Si je ne suis pas rempli du Saint-Esprit, je rentre vite dans ma maison. Je dis bonjour comme ça. Mais prendre du temps avec les gens pour leur parler du Christ, si je ne suis pas rempli, je ne vais pas le faire. L'onction, elle est là pour les relations que nous avons les uns avec les autres. Je crois que c'est tellement important. Dieu veut que nous communiquions quelque chose de bon aux autres. Nous puissions fortifier les cœurs, tous ceux qui sont autour de nous. Et je vais vous demander d'aller avec moi dans Ésaïe 61. Alors, qu'est-ce qu'on voit dans Ésaïe 61 ? L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, parce que l'Éternel m'a consacré par onction pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux déportés la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour proclamer une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous ceux qui sont dans le deuil, pour donner aux habitants de Sion en deuil une belle parure au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un costume de louange au lieu d'un esprit abattu. On les appellera alors térébins de la justice, plantation de l'Éternel, destinée à manifester sa splendeur. Ils reconstruiront sur d'anciennes ruines, ils relèveront les décombres du passé. Ils rénoveront des villes dévastées, des décombres vieux de plusieurs générations. Voilà ce que l'onction va produire sur nous. Parce que l'onction qui est sur Jésus, on parle de Jésus là, il a lu cela dans la synagogue à Nazareth. Il a lu ce passage d'Ésaïe. Mais cette onction-là qui est sur Jésus, elle est sur nous. C'est la même onction. Et Dieu veut faire la même chose au travers de Jésus comme au travers de nous. Et qu'est-ce que Dieu veut faire? Eh bien, il veut que nous puissions annoncer de bonnes nouvelles. Nous avons des bonnes nouvelles à apporter autour de nous. Il nous a envoyés pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour parler de la part de Dieu, relever, consoler, encourager, bénir par notre amour, par notre compassion, pour proclamer aux déportés la liberté et aux prisonniers à délivrance. Nous allons libérer les captifs par l'onction. Sans onction, essayez de libérer les captifs. Pas moyen, mais par la puissance de l'Esprit, des démons seront chassés. Des cœurs vont s'ouvrir à l'Évangile. Des cœurs qui sont brisés. Vous savez, il y a énormément de burn-out, des gens déprimés, des gens en détresse, des gens qui souffrent, des jeunes qui suicident, des enfants qui suicident. Il y a tellement de souffrances dans le monde que nous ne voyons même pas la souffrance. Nous passons à autre chose. Il y a tellement de malheurs dans le monde. On est blasé. Il y a des mauvaises nouvelles tous les jours. Mais on se rappelle quand même qu'elles existent. Et que Dieu nous appelle à apporter une bonne nouvelle. Pas seulement des beaux mots, bien gentils, mais des mots qui sont suivis d'actions. Des mots qui vont détruire les maux, qui vont briser les jougs, qui vont briser les œuvres du diable. Dieu, Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable et nous aussi, nous avons la capacité de consoler les maris, mari et femme. On est capable aussi d'avoir une langue exercée. Qu'est-ce que Ésaïe 50, si on va dans Ésaïe 50, dit à propos de la langue? Au verset 4, le Seigneur l'Éternel m'a donné le langage des disciples pour que je sache soutenir par la parole celui qui a battu. Il réveille, oui, matin après matin, il réveille mon oreille pour que j'écoute comme le font des disciples. Le Seigneur l'Éternel m'a donné le langage des disciples. Et donc Dieu veut nous donner la capacité de communiquer des paroles de bénédiction aux autres. D'accord ? Et j'ai la capacité de bénir mon épouse, j'ai la capacité de bénir mon mari, j'ai la capacité de bénir mes enfants, j'ai la capacité de bénir les autres, de les aider à sortir de leur souffrance, de les aider à la guérison, d'avoir des paroles qui vont les toucher, d'avoir les mots, les attitudes. Et j'ai besoin de l'onction, parce que je peux te fatiguer. C'est te fatiguer des fois. On est fatigué et chargé bien souvent. Mais venez à moi, dit Jésus. Qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut nous renouveler. Il veut mettre une huile fraîche. Pas seulement venir à lui et puis voilà, on est dans ses bras. Mais dans ses bras, il veut mettre une huile fraîche sur nos têtes. Il veut faire couler l'huile pour que nous soyons fortifiés, renouvelés, encouragés et que nous puissions avoir des forces nouvelles, nous relever après des épreuves, sortir de nos douleurs, sortir de nos mal-êtres. Et je voudrais qu'on projette trois photos, si tu veux bien, Géraldo. Et vous allez voir Kim. Alors Kim, qui c'est Kim? Eh bien, tout le monde a vu la photo, donc nous allons tout de suite comprendre. Kim, son vrai nom c'est Kim Puktanti. Kim Pukfamti, pardon. Donc, c'est la fille qui est ici. C'est la guerre au Vietnam. Un village a été bombardé par maladresse et par les sud-vietnamiens. Vraiment une maladresse. Et cette fille a reçu du napalm. Le napalm, c'était donc un acide, c'était un produit qui était un défeuillant, qui était mis par des avions. Les avions américains, monsieur. Envoyer ce produit sur les arbres pour qu'on voie bien où se trouvaient les Vietnamiens qui étaient cachés avec des armes dans des arbres. Et donc les défeuillants, c'était pour voir où ils étaient, hein, voir où était cette population pour les... Et donc le napalm est vraiment arrivé sur la peau, sur les vêtements de la fille, vous voyez là, qui est toute nue. Et les habits ont été brûlés. Et ils se sont fondus sur sa peau. Et la peau a aussi été gravement endommagée. C'est à peu près 1200 degrés. Ça produit des brûlures à 1200 degrés. Donc, le photographe qui a fait cette photo est connue dans le monde entier. Tout le monde connaît ça, dans le monde entier. Depuis des décennies. Amnesty International l'a utilisé, l'ONU, etc. Vous pouvez... donc, c'est... une des photos les plus célèbres, les plus connues, hein, pour aller lutter notamment contre la guerre du Vietnam. Et le photographe donc s'est occupé d'elle et a essayé de la sauver. Et donc bon, il y a eu d'autres personnes qui ont aidé cette femme, cette fille, cette fillette, pardon, à recevoir des opérations. Et donc il y a eu au moins 17 opérations. Elle a été opérée 17 fois. Et elle a souffert énormément, jour et nuit. Jour et nuit, je pense qu'elle souffre encore actuellement. Elle est toujours vivante, bien sûr. Et donc, ça a été un instrument de propagande dans son pays aussi. On l'a utilisé. Elle voulait faire ses études de médecine. Elle n'a pas pu continuer ses études à cause que... elle était fort médiatisée et ça l'a vraiment empêchée de faire ce qu'elle voulait. Et de fil en aiguille, elle était vraiment... elle avait une haine. Une haine par rapport à ceux qui avaient commis ces atrocités. Et elle ne parvenait pas à s'en sortir. Et un jour, elle a lu dans une bibliothèque, elle est tombée sur une Bible. Et elle a lu la Bible. Et... au travers d'une autre personne qui l'a amenée au Seigneur, elle a pu expérimenter le salut, elle a pu expérimenter la foi en Jésus-Christ, elle a pu expérimenter la guérison au niveau du cœur, et elle a pu expérimenter aussi le pardon. Et c'est ça, extraordinaire. On rejoint l'onction ici. Quand l'onction vient, elle nous donne la force aussi de pardonner à nos adversaires. Elle donne la puissance du pardon. Et voici ce qu'elle dit, parce que j'ai beaucoup de choses sur elle. Elle vit au Canada pour l'instant, elle a 3 enfants, elle a à peu près 55 ans actuellement. Et elle dit ceci: « J'ai longtemps voulu fuir cette petite fille plongée dans le chaos de la guerre du Vietnam. Mais la photo m'a toujours rattrapé. De partout, des gens surgissaient en disant « C'est bien vous ? Quelle horreur !» Et j'avais l'impression d'être doublement victime. Et puis j'ai décidé que ce qui m'apparaissait comme une malédiction avait aussi été ma chance et qu'il me revenait de choisir le sens à donner à cette photo. Elle illustrait l'épouvante de la guerre. Je deviendrai une ambassadrice de la paix. Elle montrait la barbarie. Je parlerai d'amour et incarnerai le pardon. Elle évoquait la mort. Je montrerai la vie. Elle ne m'a guère épargné, mais c'est elle qui triomphe. La tragédie n'a jamais anéanti l'espoir. Des anges gardiens sont sans cesse apparus sur mon chemin, et c'est bien cela, le miracle. Vous voyez, l'amour est toujours plus fort que le napalm. Je vais mettre la dia suivante. Voilà, encore, bon, à l'âge actuel, bien sûr, avec toutes ces brûlures, malgré toutes les opérations. Tu peux encore montrer l'autre. Voilà maintenant cette femme rayonnante du sourire et de l'amour de Jésus. Pourquoi ? Parce qu'elle a une onction d'avance. Elle a une onction d'avance. Est-ce que vous voulez cette onction-là ? Cette onction de guérison ? Cette onction de bénédiction ? Elle a souffert énormément. Mais la rencontre avec le Christ, la communion avec le Christ, la vie avec l'Esprit Saint, la vie avec Dieu, extraordinaire. Nous pouvons tout pleinement en celui qui est le chef. Nous avons tout. Nous avons tout. Et je voudrais aussi vous dire qu'elle a rencontré celui qui a fait quelque chose de terrible. Ses activités caritatives l'amènent à croiser à plusieurs reprises des personnages de son histoire. Ses bienfaiteurs, Nikut, c'est le photographe, Christopher Wayne, Perry Kretz, c'est des gens qui l'ont aidé, mais aussi un certain John Plumer, ancien capitaine de l'armée américaine au Vietnam, impliqué dans la chaîne de commandement qui a abouti au bombardement de son village. Je suis désolé, lui confie-t-il en larmes lors d'une conférence. Je te pardonne, répond Kim Puk en le prenant dans ses bras. Le pardon est plus fort, mais nous avons besoin de l'onction de l'Esprit Saint pour pouvoir pardonner. Merci Gérardon. Nous avons besoin de l'Esprit Saint pour pardonner. Elle a dit aussi à l'ONU: « Je vais passer ma vie pour dire à chaque âme troublée, à chaque âme tourmentée qu'elle peut trouver la guérison. » Voilà ce qu'elle a dit à l'ONU. « Je vais passer ma vie à dire à chaque âme troublée, à chaque âme tourmentée, qu'elle peut trouver la guérison. » Et ça, c'est extraordinaire. C'est une huile de joie. Ésaïe 61, que nous avons vu, extraordinaire, nous parle d'une huile de joie. Il y avait, dans ce passage que nous avons vu tout à l'heure, Ésaïe 61, l'onction du Seigneur l'Éternel est sur moi pour consoler tous ceux qui sont dans le deuil. Pour donner aux habitants de Sion en deuil une belle parure au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un costume de louange au lieu d'un esprit abattu. On les appellera alors térébins de la justice, plantation de l'Éternel, destinés à manifester sa splendeur. Ils reconstruiront sur d'anciennes ruines, ils relèveront les décombres du passé, ils rénoveront des villes dévastées, des décombres vieux de plusieurs générations. Dieu veut que vraiment la bénédiction de l'onction puisse continuer de génération en génération. Nous sommes porteurs de cette onction, nous voulons que cette onction puisse être sur nos enfants, sur nos petits-enfants, et rompre avec la chaîne du mal il y a des choses terribles qui ont été amenées de génération en génération. Et il y a une ligne de démarcation, il peut y avoir un arrêt. Quand vraiment nous donnons notre vie au Seigneur, il y a un avant et un après. Il y a des choses mauvaises que nous avons reçues de d'autres générations qui nous ont précédés. Mais ça peut être coupé. Dans le nom de Jésus, les choses anciennes peuvent être vraiment passées. Et nous passons à autre chose. La bénédiction va commencer à s'implanter. Et il y a des familles où l'alcool a détruit tout. L'alcool se reproduit d'une génération à une autre génération, avec de la violence dans certains cas. Des choses affreuses qui se produisent. Et est-ce que nous sommes obligés de continuer à vivre cela jusqu'à la fin, jusqu'à ce que Jésus revienne? Est-ce qu'on est obligé de vivre les choses que les autres générations ont commises et de les perpétrer? C'est souvent des choses qu'on ne veut pas et que nous continuons à faire alors que nous n'aimons pas ça. Qui veut être violent? Personne. Celui qui est violent dans le monde, je ne pense pas qu'il le veut. Mais il y a des choses qui continuent d'une génération en génération. Et il y a une ligne où ça se termine. Il y a quelque chose. Dieu veut arrêter cela. Dieu veut vraiment donner quelque chose de nouveau. Nous allons rompre les chaînes de génération en génération, rompre le mal qui passe d'une génération à l'autre. Les reproches dans nos familles vont être pardonnés. Les reproches vont être annulés par le pardon dans les couples, par rapport aux enfants, parents-enfants. Quelque chose va être rebâti par l'onction. Dieu nous appelle à rebâtir, à faire quelque chose de neuf dans nos vies. Il y a des choses nouvelles qui vont être reconstruites. Dieu est en train de transformer. Et le Seigneur veut nous donner une onction de restauration dans le nom de Jésus. Est-ce que nous pourrions prier quelques instants ?